Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11, au nom de Jésus. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il lui envoya alors quelques-uns de ses disciples pour lui demander : Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez, racontez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Et quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean aux foules en disant : Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare : Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Ces temps-ci, il y a des débats sur la durée des emprisonnements. Combien de temps qu'il faut garder les criminels en prison ? Qui pourrait avoir une grâce ? Que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres pays de l'Europe. Coffrer un criminel coûte cher à la société. La sanction qui a été proclamée à l'encontre de ces gens-là parfois devient des sources de problèmes. Et on sait bien de quoi on parle aujourd'hui. Parfois, l'emprisonnement devient source de problèmes pour la société, comme la radicalisation. Pour certaines personnes, car pendant leur longue période d'incarcération, quelques-uns ont fait des rencontres avec des recruteurs au djihad, par exemple. Par contre, chez certaines personnes, la prison a changé beaucoup de choses dans leur façon de voir la vie, dans leur orientation. Parfois, ils sont devenus plus dociles. Et nous en avons connu pas mal de gens, de grands personnages qui ont été emprisonnés en défendant aussi des causes nobles, comme Nelson Mandela, contre l'apartheid. La prison, est-ce que la prison a pu le changer ? Plus il était en prison, d'après les autobiographes, plus il a pu encore mûrir et réfléchir sur le combat qu'il devrait mener lorsqu'il sera libre. Par contre, il y a certains qui sont cassés par la prison. Ici, dans notre texte, on peut voir l'effet de la prison sur Jean-Baptiste. D'abord, il faut se rappeler qui est Jean-Baptiste sur le pourquoi de son emprisonnement. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui avait une intense ferveur lorsqu'il annonçait la parole de Dieu. Lorsqu'il a accompli sa mission qu'on lui a confiée, il était la voix qui résonnait dans le désert. Et cette voix-là est aussi à la fois au sens figuré, mais aussi au sens propre, parce qu'il criait de toutes ses forces. Il avait cette passion en lui. Il était un peu le lion du désert qui rugissait lorsqu'il appelait les Israélites à la repentance. Il est même allé jusqu'à la dénonciation du roi Hérode Antipas, qui a pris pour épouse sa belle-sœur Hérodiade. Et cette dernière fut extrêmement choquée et a demandé la tête de ce prophète mal habillé, ce prophète mal nourri. Une question se pose, est-ce que Jean-Baptiste aurait dépassé les bornes et tombé dans un excès de zèle? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, on peut voir à travers cette histoire, c'est que ce Jean-Baptiste n'était pas un type ou un gars qui se laissait facilement impressionner par les représailles du pouvoir de l'époque. Mais voilà, ce grand Jean-Baptiste, si conquérant qu'il n'avait peur de personne, lorsqu'il fut emprisonné, petit à petit le doute semble s'installer. Celui qui affirmait et qui criait haut et fort, sans hésitation, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !» Celui-là, c'est cette même personne qui se pose des questions maintenant. « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Mais où est passée cette assurance que Jean-Baptiste avait ? Pourquoi tout à coup ce doute ? Voilà l'effet de la prison. Oui, un grand homme de Dieu peut aussi tomber face à la vie. Est-ce que c'est vraiment la prison qui a mis le doute dans son cœur ? Ou c'est autre chose ? Essayons de voir un peu à travers les textes au verset 2. Il est dit, dans sa prison, il avait entendu parler des œuvres du Christ. Il avait entendu parler des œuvres du Christ. Avec un petit recul, l'histoire de Jean-Baptiste, quand on regarde de façon plus rapide, c'est une histoire un peu triste. Il n'y a pas d'happy end. Il a été annoncé que c'est lui qui va préparer le chemin de Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, « Parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'en est pas levé le plus grand que Jean-Baptiste. » C'est pour ça qu'il est le plus grand, parce qu'il est celui qui a été annoncé pour déclarer la venue du Messie. Mais voilà, lui, il n'a pas eu l'occasion d'assister et de voir de ses propres yeux les œuvres de ce Messie qu'il a annoncé. Il a annoncé pendant toute sa vie que le Messie viendra. Or lui, il n'a pas pu voir ça. Il était en prison. Et c'est pour cela que Jésus avait envoyé des témoins, et non seulement des témoins, mais des témoins oculaires, pour lui confirmer qu'en effet ce Jésus de Nazareth, qu'il a entendu, mais qu'il n'a pas vu ses œuvres, ce Jésus de Nazareth que tu as baptisé au Jourdain est vraiment le Christ, le Messie que tu as annoncé. Depuis le début, Jean-Baptiste n'a pas eu ce privilège de voir les œuvres du Messie, malgré l'importance de sa vocation. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre maintenant le sens du verset « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » C'est-à-dire la foule qui est là a pu voir les œuvres du Christ. Lui, il n'a pas pu le voir. Chers amis, les grands hommes de la Bible ne sont pas si grands comme on peut le croire. Inébranlables, infaillibles, indéboulonnable. La preuve ici, Jean-Baptiste vacillait comme tous les grands personnages de la Bible, comme Abraham, comme Noé, comme Job aussi. À un certain moment, Job a maudit le jour de sa naissance, comme David et tant d'autres. Oui, ces grands personnages, ils sont grands, non pas à cause de leurs performances ou de leurs exploits. Ils sont grands grâce à la tâche que le Seigneur les a confiée. La grandeur de Jean-Baptiste est liée au type d'annonce qu'il a annoncé. Et c'est tout. Le reste, il est comme les communs des mortels. Il est faible, comme tout le monde. Il est fragile. Il est même peureux. Et voyez-vous, regardez l'image que Jésus a utilisée. Il illustre bien le caractère de son serviteur. Un roseau agité par le vent. C'est une belle image. Un roseau agité par le vent. Le roseau est une graminée. Ils permettent de tenir les sols des berges. Mais en même temps, les tiges sont si souples et à la fois robustes. N'est-ce pas le symbole de la fragilité et en même temps de la force? Il y a la fragilité, mais aussi il y a la force dans cette image. Cette souplesse ou cette fragilité est la force du roseau, car il peut résister au vent et à la tempête. Tandis qu'un puissant chêne, face à la tempête, peut tomber par terre. Donc, soyons comme un roseau, comme Jean-Baptiste, qui n'est pas prétentieux, que je suis fort. Soyons comme lui, il a avoué, il a accepté sa faiblesse. Et c'est ça qui est devenu sa force. Avouer son échec, c'est une force. Pour le cas de Jean-Baptiste, Matthieu tient justement à décrire la vie de celui-là. Il vivait dans le désert. On oublie toujours cette partie-là. On aime entendre ce que Jean-Baptiste a dit. Mais faisons un petit pause sur la vie de ce monsieur. Où est-ce qu'il vivait? Dans le désert. Il s'habillait presque comme un sauvage. Oui, comme un sauvage. Un vêtement de poils de chameau. C'est ce qui est écrit. Le type de nourriture, des criquets et du miel, des sauterelles. Oui. Ce grand prophète, il n'allait pas au resto chaque mois ou chaque fin de semestre. À la limite, il vivait comme un ascète, celui qui s'impose une vie austère en limitant ses besoins. Mais à vrai dire, il voulait se focaliser sur le message. Pour lui, c'est le message qui est le plus important. Le reste est secondaire. Quelqu'un qui était très modeste à l'image de ce roseau qui se courbe. Mais malgré sa modestie et sa qualité de vie, celui-là, il n'était pas impressionné par ceux qui détenaient le pouvoir. Ça n'a jamais attiré le pouvoir, comme les prêtres, les pharisiens, les soldats romains. Tout ce beau monde, savez-vous qu'ils venaient tous au Jourdain pour l'écouter? Il y avait les soldats romains, des grands fonctionnaires romains. Mais qu'est-ce qui attirait ces soldats, des soldats romains? Vous imaginez leur statut, leur titre social? Qui était attiré par ce personnage mal habillé, mal nourri? Il y a une force dans ce Jean-Baptiste qui les intéresse. Face à cela, est-ce que quelqu'un comme cela est digne d'être entendu? Oui, il y avait la foule qui se précipitait pour entendre ce pauvre Jean-Baptiste. Nous aujourd'hui, est-ce que nous savons faire la distinction aussi entre le message et le messager? Est-ce que nous écouterons le message en fonction de la personne qui le porte? Actuellement, il y a des églises qui misent sur le packaging au lieu du contenu du message. On peut voir des orateurs qui misent beaucoup sur l'aspect de la communication, Mais quand on entre un peu plus dans le noyau ou l'axe principal de son message, parfois on tombe sur des messages creux. On n'entend plus le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. À la fin, quand les gens sortent de ces lieux-là, ils sont tous en admiration du messager, mais pas du Christ. Il y a un détournement, on va dire, de l'image du Christ. Le Christ n'est plus une finalité, le Christ devient un moyen. Et cela me fait rappeler un peu plus aussi les publicités, les scandales des produits cosmétiques, vous avez entendu à l'emballage, où la présentation du produit devient plus importante que le produit lui-même. Et comme on dit, ce n'est pas forcément les produits les plus chers et bien présentés qui sont les meilleurs. Même chose aussi pour les fruits bio et non bio, par exemple. Plus souvent, les produits non bio sont toujours attrayants en matière de présentation. Et c'est tout à fait le contraire de cela que Matthieu nous parle dans ce texte. Jésus annonce que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas de plus grand que Jean le baptiseur. Et quand on entend ce genre de déclaration, on s'attendrait à voir quelqu'un avec une ossature imposante, par exemple. Mais c'est un petit pauvre messager. Mais voilà, par la suite, on nous raconte que ce grand monsieur n'est pas du tout habillé de façon raffinée et ne mange pas normalement comme tout le monde. Mais Dieu l'a envoyé pour préparer le chemin de son fils. Voyez-vous le contraste? Il a été choisi pour annoncer le roi des rois. Qui oserait choisir un porte-parole pareil? Imaginez un peu le roi qui choisit quelqu'un dans la rue pour être son porte-parole. Normalement, le porte-parole doit refléter l'image du roi. Mais Dieu a choisi le plus petit. Oui, toi aussi, moi et toi, quel que soit le statut social que tu as, le Seigneur veut te choisir pour devenir son porte-parole. Et signalons-le que c'est Matthieu ici qui parle, en sachant qui est-il. Matthieu, c'est Lévi, le collecteur d'impôts, celui qui est aussi marginalisé. Et dans la Bible, il y a plusieurs récits qui montrent des serviteurs de Dieu qui se posaient des questions quand Dieu les appelle. Moi ? Oui, toi. Je prends l'exemple de Gédéon. On en avait parlé tout à l'heure au catéchisme pour les confirmants. Lorsqu'il a été appelé par Dieu pour aller sauver Israël sous le joug des Philistins, qu'est-ce qu'il répliquait ? Pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ? Ma fratrie est la plus faible en Manassé, et je suis le plus petit dans ma famille. Ça, c'est un argument de poids. Mais le Seigneur lui dit clairement, « Va avec cette force que tu as. » Il ne dit pas, « Viens, je vais te changer. Viens, je vais te booster. Viens, je vais te donner des pouvoirs magiques. » Non, « Va avec cette force que tu as. » Cette force qui n'est rien du tout. Oui, je vais t'utiliser à travers ta faiblesse. Gloire à Dieu, notre Seigneur. Amen.